mon bien-aimé, parmi les banim, les jeunes gens. Donc.
Et alors, Tosfot explique, c'est ce que Dieu dit à Israël. Qu'est-ce que ça veut dire comme le pommier parmi les arbres du jardin? C'est pas le jardin c'est un autre texte, parmi les arbres de la forêt. Alors Tosfot dit, voilà ce que ça veut dire. De même que le pommier, les feuilles viennent avant les fruits, de même, mon bien-aimé Israël a dit Narassé avant Nishma. Et Tosfot objecte, il dit, mais c'est pas clair, parce qu'on n'a jamais eu un pommier que les feuilles viennent avant les fruits. Alors, il dit, en réalité, nous devons l'apprendre d'après un autre verset, que ta poire, c'est le cédra, etrog. Okay. Vous savez que même en français, le mot de pomme, ça veut dire fruit. C'est des catégories de fruits qu'on appelle des pommes. Okay. Vous voyez, par exemple, pomme de pin, pomme de sapin, pomme de terre, pomme de top. C'est pas un fruit, mais un peu peur. Vous voyez le problème. Et il dit, effectivement, il y a des arbres à feuilles caduques, et il y a des arbres à feuilles qui restent, c'est-à-dire les feuilles qui étaient... attendez voir comment il dit cela. C'est donc l'ordre que les feuilles... que les fruits viennent avant les feuilles. C'est clair? C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Okay.
Ah, j'ai dit le contraire. Comment j'ai dit? Rappelez-moi. Ce qui est normal, oui. Il dit que les fruits viennent avant les feuilles. Et il dit, voilà, le cédra est un arbre qui ne se corrompt pas, enfin, qui ne se pourrit pas, et alors que les fruits sont encore sur l'arbre, apparaissent les feuilles de la récolte suivante. Et l'idée est la suivante, c'est qu'à l'abri d'un nishmar d'avant, on prépare le narassé avant le nishmar d'après. Vous voyez, c'est clair? Vous avez compris l'explication. À propos de la pomme, je vais vous ouvrir une petite parenthèse. Vous savez qu'en français, on dit que l'arbre du jardin, cette fois, c'est une pomme. Je n'ai jamais su d'où ils ont sorti ça. Parce que dans tous les textes hébreux, il n'y a pas de trace de pomme. Okay. Et il y a d'autres exemples dans le Midrash, chacun à son sens, dont le cédra d'ailleurs. Il y a le blé, la vigne, la figue, vous savez ça. Mais il n'y a pas la pomme. J'ai une hypothèse, j'ai jamais vérifié, j'ai une hypothèse, je vous l'ai dit. C'est que, en latin, le même mot, malum, malum, je ne sais pas comment vous prononcez, signifie le mâle et la pomme. Okay. Probable que ça vient à travers les latins. Okay. Que le fruit, mais malum, c'est la pomme, le pommier. Okay. Et malum, c'est le mâle.
Je crois que les habits, il y a un corps qui sentait la forme.
Ah, c'est autre chose. Non, ça c'est autre chose et ça n'a rien à voir avec cet arbre. Ok. D'autant plus que ce qui est le plus vraisemblable, c'est que c'était le figuier, puisque ce sont couverts de figues. Bon, ça c'est bon pour les Tunisiens, okay, la boucha. Okay. Pour revenir donc à notre problème, attendez, quelle était la question qui m'a été posée? À Narassé Vinishmar. Et je vous dis donc, le pshat, oui, je termine là, le pshat c'est Kol Asher Dibber Hashem Narassé. Parce qu'il y a eu quelques mitzvot qui ont été donnés avant le Sinaï. Vous reverrez dans les textes. En particulier, le Shabbat a été donné à Mara avant même le Mahamad Har Sinaï. Il y avait les mitzvot de Pessah, etc. Ça veut dire qu'on a entendu quelques mitzvot. Ça nous suffit pour savoir qu'on peut accepter tout. C'est ça le pshat. Kol Asher Dibber Hashem Narassé, Benishma. Et on est prêt à écouter le reste. Okay. Mais ce qu'il faut comprendre, d'après l'explication de Tosfot que je vous ai cité, c'est que celui qui est chargé de donner la Torah, pour lui, le Nishma est avant le Narassé. Et celui qui reçoit la Torah, pour lui, le Narassé est avant le Nishma. Mais il est après le Nishma de celui de qui il reçoit. Vous voyez, c'est clair? Ça veut dire que c'est à deux niveaux radicalement différents. Vous avez compris le problème? Bon. Alors, mais ne transformez pas ça dans ce que dans certains milieux moralistes, on a l'habitude de faire, que c'est une espèce de discipline pure et simple, okay. Un peu, je crois que c'est chez Pascal qu'on trouve cette expression, il faut faire marcher la machine, vous vous rappelez pas de ça, quand même? Non, j'ai oublié l'expression dans le détail, mais c'est l'idée. Non, c'est pas ça. C'est le pari de Pascal, okay. Fais, tu comprendras après. Vous voyez à peu près le problème. Bon, même s'il y a un peu de ça, c'est très différent. Il y a comprendre un peu, alors tu acceptes de faire et tu as le temps, à l'abri du faire, de comprendre le reste. C'est tout à fait autre chose. Vous avez compris ? Un peu ? Ouais. Et alors, là, c'est clair ce que j'ai dit là ? Bien. Alors, je crois qu'on peut arriver à la fin maintenant. Alors donc, le troisième paragraphe que nous avons lu, c'est que à Purim, il se dévoile que le Naase Venishmar, apparemment imposé, je ne sais pas comment décrire cela, si vous voulez, Dieu parle, alors tout de suite le peuple dit, vous, ça va, Naase Venishmar, tout de suite. Après, la révélation se cache. Il dit, ah oui, tu nous as imposé la Torah, mais tu nous l'as imposée. Oui, à Purim se dévoile que, libre de devenir persan, les juifs ont préféré rester juifs. En tout cas, ceux qui ont... Vous avez compris ? Et d'ailleurs, comment on fait pour Purim ? On met un tonneau en perse. Olomadze, et par rapport à cela, Beilchot Teshuvah, dans les halachot concernant la Teshuvah, Kotev Rambam, Maïmonide écrit, Sheikah Harata, l'essentiel du regret qui accompagne la Teshuvah, Huachraza, c'est la proclamation, Sheani, que moi, Eneni Otoai Sheparal Otamamarasim, je ne suis plus cet homme qui a fait ces actions mauvaises dont, que je regrette. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Harata, d'après Maïmonide, c'est prendre conscience que je ne suis plus cet homme-là. Et vous comprenez pourquoi? Parce que si je suis toujours le même, j'aurai les mêmes tendances à faire les mêmes actes. Donc le signe que le regret est réel, c'est que j'ai senti une mutation d'identité. Que j'ai ressenti une mutation. La Gemara dit dans ce sens-là, quand est-ce que la tshuva est sincère et réelle? C'est quand Dieu, Hoker Klayot Valev, qui sonde les reins et les cœurs, peut lui jurer que moi je ne referai pas ça. Vous avez compris pour vous. Comme je vous ai dit lorsqu'on a parlé de la tshuva sincère, c'est la tshuva qu'on fait la dernière fois. Okay? Parce que celui qui dit à Omer, Echeta ve'ashuv, elle m'a expliqué, mais il y a de la tshuva. Alors c'est pourquoi il y a une Mishnah dans le Pirkei Avot qui dit qu'il faut se repentir un jour avant sa mort. Et comme on ne sait pas quel jour on meurt, tous les jours. Bon, alors je reviens donc sur cette phrase. Oulahumadze, et par rapport à cela, Beilchot Tshuva, dans les lois concernant la Tshuva, Kotev Rambam, Maïmonide enseigne, Sheika Harata, que l'essentiel du regret qui s'attache à la Tshuva, c'est la proclamation chez Annie que moi, Eneni Otoaïch, je ne suis plus cet homme, chez Paral Otamamarasim, qui avait fait ces actes-là. Faites bien attention à cela. Tant que je suis ce même homme, il n'y a pas regret, il y a remords. Et c'est le signe que je suis encore ce même homme, et malade de cela. Le remords, c'est le signe de la maladie. Le regret, c'est le signe de la guérison. Ça veut dire que je suis un autre. Je regrette ce que j'avais fait. Mais c'est plus moi qui fera ça. Tandis que remords, je suis encore capable de le faire et ça me gêne. Est-ce que vous comprenez la différence? Okay.
Pourquoi est-ce que le type Yeshua doit forcément avoir du regret? Il était un autre homme avant, maintenant il est un autre homme.
C'est par la mémoire. Ça veut dire, bon, il faut bien comprendre, je suis quand même le même dans la permanence du moi, mais je suis à un niveau de mutation qui est que j'étais celui, d'ailleurs je comprends ta question, mais qui était celui qui a fait ça, et par conséquent, il y a harata d'avoir été celui-là. Dans la chassidoute, on enseigne que le signe qu'une faute a été vraiment repentie, je ne sais pas comment dire en français, qu'on s'est vraiment repenti d'une faute, c'est qu'on a oublié ce qui a été fait. Ça, c'est dans la chassidoute. Peut-être qu'il a entendu ça. Et j'ai entendu un rabbin, d'ailleurs, qui a enseigné que... par rapport à une halakha de Kippour, d'ailleurs. La halakha de Kippour dit ceci. Il est interdit de faire tshuva après Kippour d'une faute qu'on a faite avant. Parce que si on a à faire tshuva après Kippour d'une faute qu'on a faite avant, c'est qu'on n'a pas fait Kippour. Okay. Ça veut dire le signe que Kippour a été fait, c'est qu'on n'a plus à faire tchouva pour ce qu'on avait fait avant. Voilà, je veux dire, là il y a un... Je vous ai dit souvent que nous étions des hommes et des femmes dilués, okay, des quasi benadam. Mais en réalité, si vous voulez, la capacité d'authenticité humaine fait que, en tout cas sur ce point, je cherche un mot précis, bon, je vais le dire autrement, ça m'a échappé, il y avait une nuance, c'est que le signe que la tchouva est réelle, c'est qu'on n'est plus capable de faire cette faute-là. Vous comprenez le problème. C'est-à-dire que à partir du moment où l'expérience de Kippour est passée, eh bien, c'est fini. Tout ce qu'il y a eu avant est annulé. Vraiment. Okay. Donc, vous avez ces deux niveaux. La harata, explique Maïmonide, a donc comme signe qu'il y a vraiment changement de la personnalité. Mais c'est toujours moi le même dans la permanence du moi. Mais je crois que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure qui est l'essentiel. Mais quand même, ça m'a échappé le reste. Ça me reviendra peut-être un jour, vous me rappellerez. C'est ceci, la différence entre le regret et le remords. Si vous avez bien compris la différence. Dans le remords, je continue à être atteint par le regret. Il m'empoisonne. Okay. Et le remords, c'est une sorte d'aiguillon pour me repentir vraiment. Mais tant que je suis dans le remords, c'est que je ne suis pas capable de me repentir. Le regret, c'est que j'ai la vision claire de ce que j'ai fait, mais que je ne suis plus atteint par cela, parce que je suis devenu autre, comme dit Maïmon. Est-ce que c'est plus clair? Alors, donc je continue dans le Rambam qui est cité ici. Ad, chez Mehamadze, ou Meshane et Shmo. Jusqu'au point que par là, il change son nom. Klomar, comme pour dire, Ani Aher, je suis autre. Veneni Otoarish Vegomer. Et je ne suis plus cet homme qui a fait. Et je citerai ici trois. Il y a un enseignement dans la Gemara qu'il y a trois occasions dans la vie où toutes les fautes sont pardonnées. La première, c'est la tshuva. Okay? Quand on fait vraiment tshuva, eh bien les fautes sont pardonnées. Elles sont pardonnées, ça veut dire qu'il y a guérison de la conscience. Les conséquences des fautes qu'on a faites, il faudra s'en occuper. Les conséquences, on en est responsable. Vous suivez, okay? Vous savez comment on dit responsable en hébreu? Achraï. Et ça veut dire, ça vient de achar, ce qui vient après. Répondre, capable de répondre, c'est ça responsable, de répondre de ses actes, okay, de ce qui vient après. Bon, il y a un drache là-dessus, c'est un autre problème. Donc, la première occasion, c'est quand la tchouva est sincère. Alors, il y a revirginisation de la conscience. C'est clair? De la personne. Et vous comprenez donc, qu'est-ce que c'est le sérieux d'une tchouva sincère? C'est pas au niveau de la velléité, c'est vraiment une mutation de l'identité. C'est clair? Je suis devenu autre. Bien. La deuxième, c'est quand c'est au moment du mariage. Au moment du mariage, tout ce qui s'est passé avant est pardonné. Et si le mariage est réel, c'est clair. Si le mariage n'est pas réel, si c'est un accouplement provisoire, ça joue pas. Et pourquoi? Qui peut expliquer pourquoi? Et je vous en donnerai la troisième après. Et pourquoi au moment du mariage, toutes les fautes d'avant sont pardonnées? C'est un peu compliqué. Dis les choses plus simples. Tu es sur la voie, mais dis le plus simple. Plus simple. On devient autre. On est quelqu'un d'autre.
On est une moitié.
Bon, mais allez à l'essentiel. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est la raison pour laquelle, chez les Ashkenazim, on jeûne le jour du mariage. Parce que, non, le Sfardim, c'est interdit. Ah, kacha. Vous voyez à quel point vous êtes assimilé. Alors, je veux dire la halakha. Bon. Alors, je vous parle des Ashkenazim. Mais chez les Ashkenazim, c'est une obligation. Et parce que le jour d'avant le mariage est un Yom Kippour Katan. Et d'ailleurs, le fiancé chez les Ashkenazim, en principe, est sous la choupa avec son linceul, habillé du linceul, comme à Yom Kippour. Chez les Ashkenazim. Vous savez pas ça? Non, apprenez. C'est le linceul, c'est le sargenes, comme on dit. Et alors, là, ça se rattache à la halakha du premier temple. Vous vous rappelez, les Ashkenazim viennent de la Gola du premier temple. Alors que la halakha des Sfaradim, c'est interdit. Parce que c'est un yom de Simcha et c'est relié à la halakha du deuxième temple. Alors, lorsqu'il y a un mariage entre Ashkenaz et Sfarad, ni l'un ni l'autre ne doivent jeûner ni prendre le deuil. Okay? Parce que l'Ashkenaz du mariage ne doit pas empêcher la Simcha du Sfarad et donc il la prend sur lui. Okay? Là, elle est comme ça, chez les deux. Okay? Ne vous trompez pas. Bon. S'il y a un cas particulier il y a des cas particuliers, en particulier dans le mariage entre Ashkenaz ou Sfarad, où les deux prennent sur eux de jeûner. Ça, il faut demander au rabbin de la communauté, parce qu'en général, c'est quand le conjoint Ashkenaz n'a pas ses parents. Okay? Mais ça, c'est des cas particuliers. Okay? C'est clair le problème? Ne vous trompez pas. Hein? Je sais qu'il y a une coquetterie chez les Sfaradim, après avoir fait un petit tour en France, de jeûner le jour du mariage, et alors tous les invités sont là, ils font la fête, et eux, ils font... Tandis que chez les Ashkenazim, c'est une chova. Ne vous trompez pas. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Alors voilà, on a compris pour le deuxième cas. Alors il y a un troisième cas. Et vous voyez la chokma de la Gemara. C'est quand on change de position sociale. Par exemple, quelqu'un est nommé chef de service, il devient autre. Alors, on considère que ses fautes passées sont... Il n'y a pas de casier judiciaire. On a changé de niveau social, on ne peut pas handicaper la nouvelle position par ce qui s'est passé dans le passé. Mais sachez-le, même si la société ne le fait pas, sachez que la halakha est comme ça. C'est-à-dire, lorsqu'on a changé de niveau... Dans ces trois cas, teshuva, mariage, changement de position sociale, il faut, revirginiser la conscience, faire un vidange, je sais pas, la vidange, en deux mots. Changement de tête Mais c'est ça un changement. Alors, on parle pas de ça. Okay. Ça veut dire que, par exemple, un adjudant devient capitaine, okay, après avoir été lieutenant, d'accord. Eh bien, on ne peut pas lui imputer en tant que capitaine ce qu'il a fait comme lieutenant. C'est clair. Encore une fois, quand vraiment le changement de position sociale est sérieux, réel. Bon, mais vous comprenez le principe. C'est-à-dire, du point de vue de la pédagogie morale de la vie de tous les jours, à partir du moment où on a changé de niveau, il ne faut plus être handicapé par ce qui s'est passé avant. Ça y est, c'est clair. Bon, il y a d'autres cas particuliers, mais ça, c'est les règles essentielles. Ça y est? Bon, alors on continue. Par excellence. Mais d'ailleurs, il y a trop de juifs qui font leur alia et qui nous encombrent de leur remords. Laissez ça dans la Méditerranée. Bon. Comment est-ce que c'est vrai, là? La sortnoud n'a pas pensé qu'avant la alia, il faudrait prendre la tibila. Il faut passer par Mikvé Israël. Bon, alors on continue. Venim ça, il en résulte. Bon, et avec la tshuva, c'est le giur aussi. Quand quelqu'un se convertit, tout ce qui s'est passé avant dans sa vie s'est annulé. Alors, venim ça, et il en résulte des mahalach nefesh baharata, que la conduite psychique dans le regret des Yom Kippour, du jour de Kippour, ou à mahalach shel mesirat modara, c'est la même conduite qu'une attestation à machriz qui proclame qui a maasim shenahasu enam novim beshum ofan me'ani, que les fautes qui ont été faites ne viennent en aucun cas du ani que je suis devenu. Vous voyez que c'est l'inverse de Pourim. C'est clair? À Pourim, je dévoile que c'était bien moi qui avais accepté la Torah au Sinaï. À Kippour, je dévoile que c'était pas moi qui avais fait ces fautes-là. Vous suivez? Donc, alors on peut avancer. Et là, chez Nitgalgelou le Yadim et Gormim Chitsonim, que tout se passe comme si ça m'est arrivé entre mes mains, Nitgalgal Adabar, par des facteurs extérieurs. Okay? C'est-à-dire, a posteriori, se dévoile que je n'étais pas moi-même lorsque j'ai fait cela. Quand? Quand je redeviens moi-même. C'est clair? Et quand je redeviens moi-même, alors je suis déculpabilisé parce qu'il se dévoile que ce n'était pas moi, cet homme qui avait fait ça. À condition que je change vraiment de moi. Et que ça veut dire changer de moi? Un homme ne peut pas changer ce qu'il est. Redevenir vraiment moi-même. C'est clair?
Oui, si c'est un autre moi, c'est sûr. Moi va être encore en transition, c'est une autre condition. Il doit passer à un autre moi. C'est pas soi-même qui l'a trouvé.
Si, ça veut dire que c'est de degré en degré qu'on retrouve son soi-même vraiment. Et il y a une infinité de degrés. Tu as raison de poser la question. Okay? C'est-à-dire, voilà. C'est tout le problème de l'explication des souffrances de Job. Okay. Au niveau où il est, il n'a fait aucune faute. Mais par rapport au niveau où il devrait être, il est en faute. Et c'est pourquoi il souffre, il ne comprend pas. Okay. Il dit, quoi, j'ai fait aucune faute? Oui, mais tu n'es pas encore là-haut, plus haut. Okay. Et quand il arrive plus haut, s'il s'arrête là, il recommence à souffrir. Mm-hmm. Vous avez compris le problème? Okay. Alors, on continue. Veilou, Mahalach hanefesh de Pourim, alors que le comportement psychique de Pourim, ou à Mahalach il bitul moda, c'est le comportement de l'annulation de cette attestation à Machriz qui atteste, à Madgish et qui met l'accent, qui a Maasim shenahasu, que les actes qui avaient été faits, l'obaou mehamad gomim hitzonim, ne viennent pas de facteurs extérieurs qui m'ont contraint. Et la dafka mi ma'amake havayati, mais au contraire des profondeurs de mon être. Pekan hu shoresh ha'inyan, et c'est là qu'est la racine de ce sujet. Sheba matmea hayom shel Pourim, que dans la caractéristique du jour de Pourim, en acharata meshameshet noserishum dibur, le problème du regret ne tient aucune place. Ki alken, puisque à Tochen Anafshi, le contenu intérieur chez l'Avodat Itzumo chez Yom HaPurim, du culte, de l'essence du jour de Pourim, Okeru est arraché, Mitochen Nefesh, arrache du dedans de ma personne, et Mahalach Harata, le comportement du regret. Vous comprenez où il est? Jusque-là, j'aurais pu regretter d'avoir reçu la Torah par force. Mais le jour de Pourim, j'arrache ce regret. Alors c'est Kabbalah sans regret. Qui a tochen shel bitul modara, car l'essence même de l'annulation de la modara du Sinaï, soter et a tochen shel mesirat modara, contredit le contenu de la proclamation de la modara au Sinaï. Hadar ki bluha, et c'est pourquoi, à nouveau, ils l'ont reçu. Bimé à Hachverosh, au temps d'Assuérus, chez Nehemar, puisqu'il est dit Kimou et Kiblou. Voilà, j'ai compris donc l'explication qu'il a donnée de ce problème. Vous voulez que je vous résume? C'est pas la peine. Hein? C'est clair. Donc. Bien. Alors, le Hinyan suivant concerne les Mishlo Armanot. Bon, peut-être qu'on l'étudiera dans un autre. Mille d'études, dans un autre siècle, c'est pas une autre calme. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a Mignan? Oui. Bon. Alors, je vais dire Kaddish de Rabbanan. La dernière fois, je ne pouvais pas, j'étais trop fatigué, je ne pouvais pas penser au Kaddish, mais cette fois, je peux. Dans Shemot, à la fin de Meshalach, et puis ensuite, vous ferez une petite apsaka et on reprendra alors les brachot de Purim. Alors là, vous amènerez votre sidour. Bon, alors, je reprends un peu ce qu'on avait vu donc hier, pour ceux qui étaient là. C'était le chapitre 17. Quel chapitre c'était? Ma, Yuzaïm, 17, hein? Verset 5. Est-ce que vous avez ici des livres de Bereshit? Non, alors vous allez en apporter. Chapitre 36, Lamed Vav, à partir du verset 9. Lamed Vav, tête. La parashat Purim qui raconte la guerre de Ramalek, la première fois au moment de la sortie d'Égypte. Alors, on va d'abord voir la référence de l'origine de Amalek. Alors, vous avez le chapitre 36, à partir du verset 9, je lis avec vous, enfin, vous lisez avec moi. Et voici les engendrements d'Esav. Et vous remarquez que dans le mot de Toldot, qu'est-ce que vous marquez? Il manque un verbe. Bon, heureusement. Esav, Abi Edom. Abi Edom, littéralement, ça veut dire père de Edom. Et le pays de Esav s'appelle Edom. Donc, le peuple va prendre aussi ce nom de Edom. Behar Seir est dans la montagne de Seir. Elé Shemot ben Esav, voici les noms des enfants de Esav. Eliphaz, ben Ada Eshet Esav. Eliphaz est le premier des fils de Esav, et il est le fils de Ada, une des femmes de Esav. Nous ne sommes pas encore arrivés dans le cours général à ces problèmes, mais on va s'apercevoir que Esav va prendre femme dans le pays de Canaan. Une de ses femmes s'appelle Ada, elle lui enfante, le premier enfant qu'il a d'elle, c'est Eliphaz. Et il y a là d'abord un problème important, c'est-à-dire la rivalité contre Jacob, qui vient de Esaü, vient d'une alliance entre Ésaü et les peuples qui habitent Canaan. Cela est indiqué par le fait que les femmes de Ésaü sont des filles de Canaan. On verra ça dans les textes précédents lorsque on y arrivera dans le cours général. Et c'est la raison essentielle de la disqualification de Ésaü en tant que descendant d'Abraham et d'Isaac. C'est-à-dire, si la bénédiction d'Abraham est refusée à Ésaü et passe à Jacob, c'est premièrement parce que Ésaü a pris femme dans le pays de Canaan. Alors, il va en résulter une identité que nous allons étudier, la descendance de Esav, mais en particulier Amalek, qui est un fils d'Éliphaz. On va voir dans la suite, mais notez bien d'abord la définition au niveau de l'identité, de la raison pour laquelle entre Esav et Jacob, qui deviendra Israël, il va y avoir une lutte de rivalité aussi grave et aussi difficile. C'est-à-dire, premièrement, comme je viens de vous le dire, la disqualification de Esav vient de ce que il fait souche dans le pays de Canaan, donc dans une alliance avec les populations de Canaan. Nous avons déjà étudié un peu ce problème. Rappelez-vous, lorsqu'on est arrivé à la fin des 10 premières générations de l'humanité avant le déluge, et lorsqu'il y a eu mélange des lignées entre les Bnechet et les Benoît de Caïn. Vous vous rappelez de cela? Alors là, je vous ai un peu parlé, je pense, déjà par préfiguration de ce problème. Et nous allons le voir un peu plus en détail dans la suite. C'est-à-dire, tant que l'identité d'Israël n'est pas constituée, le mariage entre cette identité d'Israël en constitution c'est-à-dire au niveau du temps des pères, du temps des avot. Et les filles de Canaan en particulier, est interdit. Après, il y a des dispositions qui le rendent possible. Mais vous vous rappelez bien la raison pour laquelle, au niveau des patriarches, il y a une interdiction absolue. Je vous rappelle brièvement les péripéties qu'il faut rappeler à ce moment-là. Vous vous rappelez dans l'histoire d'Abraham. Alors, j'espère que vous avez déjà lu ces textes, on ne les a pas encore étudiés, mais dans l'histoire d'Abraham, au moment de la naissance d'Isaac, lorsqu'il faut marier Isaac pour qu'il y ait une suite aux engendrements, Abraham formule la première consigne, interdiction pour Isaac de revenir d'où Abraham est parti. Et par conséquent, il faut que Eliezer, le serviteur d'Abraham, retourne là d'où Abraham était sorti pour savoir s'il existe une femme possible pour Isaac et à condition qu'elle accepte de venir en Eretz Israël, qui s'appelle à l'époque Eretz Canaan. Vous vous rappelez de cela? Et ensuite, c'est la première péripétie. La deuxième, nous la voyons ici, c'est que Jacob va être obligé de quitter, lui, le pays de Canaan pour retourner dans la région de la famille d'Abraham, chez Laban, et qui était donc la famille de sa mère Rivka, qui est une des branches de la famille d'Abraham, pour trouver femme. Et donc, c'est relié avec notre épisode. La raison pour laquelle Isaac n'a pas le droit de quitter Eretz Israël, alors que Jacob, lui, doit s'enfuir d'Eretz Israël pour aller de nouveau chez Laban, nous l'étudierons d'autre part. Il y a ici deux niveaux très différents. Isaac est le seul des patriarches qui n'a jamais quitté Eretz Israël. Retenez bien cela, parce que c'est important pour beaucoup de problèmes. C'est relié, je crois que je vous en ai parlé une fois, c'est relié au fait que Isaac est le seul des patriarches qui ne change pas de nom. Vous vous rappelez de cela? Et on a étudié ça peut-être un jour. Et il a une seule femme. Les trois choses vont à la fois. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Et donc, étant donné qu'Israël est préparé en tant que peuple pour remplacer Canaan, qui a été le berceau des civilisations à travers la lignée de Ham. Et donc, à partir du moment où Canaan, qui se trouve sur le pays d'Israël, arrive à saturation de mâles, est disqualifié, alors Israël se prépare en tant que peuple à partir de l'identité d'Abraham pour le remplacer. Tant que l'identité d'Israël n'est pas constituée, s'il y a mélange des populations, enfin des lignées, il y a échec. Or, cet échec arrive dans la famille d'Abraham à travers Ésaü. C'est-à-dire, il y a ici une identité qui, par définition, va s'instaurer comme rival de Jacob devenu Israël. Et donc, le deuxième élément de la gravité de cet échec d'Ésaü qui se signale par le mariage mixte avec les filles de Canaan, c'est que précisément cette alliance se fait avec les populations qu'Israël est destiné à remplacer. Et donc, il y a une espèce de rivalité, c'est plus que cela. Bon, il y a une haine, mais qui s'enracine dans des motivations très anciennes. Et d'où sortira en particulier l'identité de Amalek. Bon, vous avez compris le thème. Alors, je continue dans notre texte dans Bereshit. C'est-à-dire une sorte de collaboration entre l'identité Canaan, les habitants du pays, au moment où Israël est destiné à les remplacer, et l'origine de l'identité d'Abraham. Et vous voyez, pour ceux qui étaient là hier après-midi, vous devinez que, en tout cas dans les péripéties contemporaines, cette motivation de Amalek contre Israël s'incarne pratiquement dans les mêmes dimensions d'identité. Au niveau de l'histoire des civilisations, cette relation à l'identité d'Abraham, c'est bien entendu l'islam. Bon, et c'est pas pour rien que nous sommes en butte à cet obstacle qui s'appelle Amalek et qui s'incarne dans les populations du pays reliées à la prétention de l'héritage par Abraham. J'ai pas encore dit qu'il s'agit des Palestiniens, mais enfin vous devinez quel est le problème qu'il faut bien analyser. Enfin, de ce qu'on appelle les Palestiniens. Parce qu'en principe, les Palestiniens, c'était les Juifs, mais c'est un autre problème. Alors je reprends. Et les Shemot venez Esav. Voici les noms des enfants de Esav, Eliphaz ben Ada, Eshet Esav, ce Eshet Esav, femme de Esav, nous renvoie un texte précédent, précisément au moment où Ésaü sera disqualifié à cause du fait qu'il a pris pour femme des Cananéennes. C'est clair jusque-là. Donc, ensuite, Reuel ben Bosmat Eshet Esav. Bosmat est une autre des femmes de Esav. Vayehu ben Eliphaz, et les fils de Eliphaz sont Théman, Omar, oui, Théman, Omar, vous voyez de quel type de peuplade il s'agit, oui, mais les Arabes, pas les Juifs. Tsephor, Gartam ou Knaz, qui sont d'autres peuplades du même, de la même identité. Et c'est là qu'on arrive au verset 12. Et Timna, Haïta, Pilegesh, le Eliphaz, Ben Esav, et Timna était concubine de Eliphaz, fils de Esav, va télé les Eliphaz être Amalek. Et elle enfanta à Eliphaz Amalek. Alors vous avez d'abord la généalogie de Amalek. Il est le fils de Eliphaz qui est fils de Esav. Donc c'est un petit-fils de Esav, mais qui est né, d'une part, par sa grand-mère, si j'ose dire, de l'identité des Cananéens, et puis par sa mère, de Timna. Alors, qui est Timna? Nous allons maintenant l'apprendre dans un autre verset que vous avez dans la suite, c'est la fin du verset 22. Vous notez la référence. Vayihu ben Lotan, Hori, Vehemam, Veachot Lotan, Timna. On apprend que Timna est la sœur d'un certain Lotan, mais qui lui fait partie de toute autre lignée. 22 du même chapitre. Vous allez prendre à partir du verset 20 du même chapitre. Elle ben Seir, Achori, Yoshevé, Aretz. On nous dit qui étaient les peuplades qui habitaient le pays de Seir, où Ésaü va s'installer. C'est-à-dire, dans tout le pays de Canaan, tout le pays de Canaan appartiendra à l'héritage d'Israël. Mais Esav, lui, va s'installer. Il n'y a pas la carte là, vous avez déjà étudié un peu en géographie où est le pays de Seir, Edom. Dans le sud. Bon, ça va, oui, dans le sud, du côté de la Jordanie. Oui, dès que vous arrivez dans les montagnes rouges, et ce pays s'appelle Édom, parce que ces montagnes sont pleines de minerais de fer, ce qui donne la couleur rouge d'ailleurs. Et oui, toutes les industries du fer qui ont donné les armes. Et là habitaient des populations qui s'appellent les Chorites, qui étaient donc parmi ces populations cananéennes. Et le peuple descendant de Esav va donc occuper le territoire des Chorites. Ce que dit le verset, Ele bene Seir Achori, voici les enfants de Seir, le Chorite, Yoshevé Aretz, qui habitaient le pays, Lotan, Beshoval, Vetzivon, Va'ana. Védishon, Véetzer, Védishan, et les Aloufé Achori, voici les princes des Chorites, de Moseir, les descendants de Seir, Véeret Sedom, dans le pays de Edom. Bon. Bayou, Bene Lotan, et les enfants de Lotan étaient Chori, il prend le nom de sa nation, Véhemam, Véachot Lotan, Timna. De ce verset, la Gemara enseigne, dans la Gemara de Sanhedrin, c'est page 99b. Notez cette référence. C'est cet exemple que la Gemara prend pour expliquer un sujet général que tous les petits détails apparemment anodins, je ne sais pas comment dire, apparemment sans signification évidente qu'il y a dans le récit de la Torah sont très importants. Et elle prend en particulier comme exemple « Ve'achot Lotan Timna » et la sœur de Lotan était Timna. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle importance il y a de savoir que Timna était la sœur de Lotan. Pourquoi c'est ainsi que cela est indiqué dans un détail apparemment aussi aussi petit. Alors, la Gemara explique qu'en réalité, même des détails infimes, apparemment de ce genre, ont une portée très, très importante et très grande. Alors, je reviens à notre verset, à propos du verset 12, « Vetimna aïta pilegesh l'Eliphaz ». Et Timna était la concubine de Eliphaz. Voilà ce que la Gemara enseigne à ce sujet. Alors maintenant, vous avez un peu les données d'identité en place. Ésaü a pris pour femme des Cananéennes, en particulier Ada. Et puis, c'était des Hittites. Le peuple des Hittites. Hittites en français. Okay. Et puis, de Ada, il a eu Eliphaz, qui est son fils premier-né. Et Eliphaz a pris femme pour sa part, mais d'autre part, il a eu une concubine, nous dit le texte, qui était Timna. Et cette Timna, elle, était une princesse des Chorites. Et voilà donc déjà le détail que la Torah nous enseigne, que Timna n'est pas n'importe qui. Elle est Ahot Lotan, et dans les versets 20 que nous avons lus, on apprend que Lotan est un des Aloufés à Hori, des princes des Hori. Donc, elle est une princesse de sang royal, comme on pourrait dire. La Gemara précise que qu'est-ce que ça veut dire Alouf. Aujourd'hui, Alouf, ça veut dire officier supérieur. Okay. Pardon.
Mania,
moi c'est Mania. Ah, Magna. Oui, Malchuta Blitaga, ça veut dire un prince sans couronne. Ça veut dire qu'il est de la race royale et qu'il pourrait régner, si c'était son tour de régner, de façon légitime. Bon. Et voilà que la Gemara nous raconte toute une histoire. On dit que Timna, au temps d'Abraham, a demandé à devenir la femme d'Abraham. Plus exactement, se convertir, mais avec comme condition d'être la femme d'Abraham. Et Abraham l'a refusé. Ensuite, au temps d'Isaac, elle demande à Isaac la même chose et Isaac la refuse. Au temps de Jacob, elle demande à Jacob la même chose et Jacob la refuse. Et alors vous allez me dire combien de temps elle a vécu. Bon. Alors vous comprenez que ça signifie, très simple à comprendre, que c'est un thème d'identité. C'est-à-dire à chaque étape des patriarches, Abraham et sa Mida, sa,